Léon de Rosny, l'idée de Dieu dans la philosophie religieuse de la Chine, conférence de 1899. Depuis plus d'un siècle, la question du déisme ou de l'athéisme de la Chine a été controversée par des écrivains et par des penseurs plus ou moins en état de réunir, de comprendre et d'apprécier les pièces du procès. Voltaire, par exemple, sans rien connaître des documents indigènes, reprochait avec aigreur aux théologos d'Occident de soutenir que les Chinois étaient athées, et la déclaration de la Sorbonne en 1700, suivant laquelle serait réputé hérétique quiconque soutiendrait que l'empereur de Chine croyait en Dieu, avait eu pour résultat de l'exaspérer. Du moment où il s'agissait de rendre un verdict aussi grave contre les Chinois, le moins eût été peut-être de bien s'expliquer sur ce qu'il faut entendre par un athée. Un athée, suivant le paganisme grec ou romain, était un homme qui ne possédait, professait qu'un médiocre respect pour les habitants de l'Olympe, où Jupiter lui-même et son épouse Junon ne jouissaient pas précisément du privilège de mœurs exemplaires. Au Moyen Âge, c'était quelqu'un qui ne prenait guère plus au sérieux les Elohim de la Bible que ces vieillards à barbe blanche dont les peintres lui montraient l'image comme une représentation de l'être suprême. Et de nos jours, un athée, je ne parle pas de quelques gens qui s'affublent de ce titre dans le seul but de provoquer de coupables surexcitations religieuses, un athée, dis-je, n'est souvent rien d'autre chose qu'un sceptique, c'est-à-dire un chercheur qui ne trouve pas qu'on lui donne des preuves suffisantes pour admettre une individualité créatrice de notre globe, des autres boules du même genre qui roulent dans l'espace, et enfin de tout ce qui existe ou peut exister encore au-delà de ce que nous connaissons, de ce que nous croyons connaître. Eh bien, lorsqu'on a soutenu que les Chinois étaient athées, on a oublié de nous dire auquel de ces trois genres d'athées ils appartenaient. On a fait plus mal encore. On a englobé une nation immense et ses diverses doctrines philosophiques en un tout qui n'a rien d'homogène, ainsi que nous nous proposons de le démontrer. Cependant, il est hors de conteste qu'il peut y avoir chez un peuple des athées et des déistes sans qu'il soit permis pour cela de dire que ce peuple est lui-même athée ou déiste. Or, il me semble qu'il y a avantage à rattacher la question du déisme ou de l'athéisme des Chinois au moins à trois grandes manifestations religieuses ou philosophiques de l'Asie orientale, savoir la doctrine cosmogonique pré-confucéiste qu'on peut appeler la théorie du Tatki, l'enseignement moral et politique de Confucius et de son école, et enfin la philosophie laotaoïste, dont on considère d'habitude Lao Tse comme le fondateur.
Chapitre 1. La doctrine cosmogonique, dont l'un des termes les plus importants est celui du Taiki, semble remonter aux origines même de l'évolution intellectuelle des Chinois, ou du moins à l'époque où l'existence première de cette nation nous est signalée par l'histoire. Je suis enclin à émettre cette manière de voir parce que plus j'étudie les œuvres littéraires de la dynastie des Chéou, c'est-à-dire les premiers monuments écrits que nous possédons dans des conditions sérieuses d'authenticité, plus j'arrive à me convaincre que la Chine avait longtemps vécu avant que de telles œuvres aient pu se produire, et parce qu'un examen minutieux des textes de la grande époque de Confucius me conduit à reconnaître qu'ils sont la résultante de plusieurs systèmes cosmogoniques successifs très différents les uns des autres. Un sinologue qui s'est livré à l'étude de la philosophie n'admettra jamais que le premier des cinq livres dits canoniques, c'est-à-dire le Yingqing, par exemple, puisse appartenir à la même source d'idées que les autres Qing. Je crois donc que, pour découvrir la pensée qui s'attache au Taiking, il faut opérer une sorte de classement méthodique préalable des passages où nous en trouvons la mention dans les livres de l'Antiquité chinoise. Toutefois, avant de tenter un pareil classement, il me semble utile de demander aux grands travaux lexicographiques de la Chine ce qu'il faut entendre philologiquement, je dirais presque étymologiquement, par taiki, c'est-à-dire le grand qui, expression qui désigne dans la théorie cosmogonique dont nous nous occupons en ce moment la force ou puissance initiatrice de l'univers. Des meilleurs lexiques de la Chine auxquels j'ai eu recours nous fournissent sur le mot qui des interprétations très nombreuses, parfois assez divergentes, qui ne sont pas sans jeter une certaine somme de doutes sur la valeur qu'il convient d'attribuer à ce mot lorsqu'il figure dans les textes cosmogoniques de l'Antiquité. On arrive même bientôt à croire, par la variété et par l'incohérence de ses explications, que non seulement il a varié le sens dans les diverses écoles antérieures à notre ère, mais qu'il a fini par perdre sa portée philosophique en pénétrant dans le langage des classes populaires. Établir ces variations de sens constituerait sans doute une œuvre intéressante, mais elle exigerait de longues recherches dans une foule de livres non encore traduits qu'il serait peut-être prématuré d'entreprendre aujourd'hui. Et il y a lieu de craindre que, même au prix de ces pénibles recherches, on ne puisse aboutir à un résultat précis et satisfaisant. Je me bornerai donc, pour l'instant, à signaler un choix d'interprétation que m'ont fourni les œuvres lexicographiques les plus autorisées, interprétation que je m'efforcerai de rattacher aux différentes tentatives d'exégèse entreprises sur la définition du taiki par les penseurs chinois. Dans les textes où cette expression figure comme terme fondamental de l'idée cosmogonique, le mot qi veut dire le principe et la fin, la condition suprême. C'est la loi suprême qui préside aux transformations, ou en d'autres termes, la condition immuable qui résulte de la justice fatale, intransigeante et ininfluençable. Joint au qualificatif Tai, qui signifie grand, il nous est donné comme la dénomination de l'unité absolue et primordiale, antérieure à la séparation originelle des éléments chaotiques de l'univers. Et cette unité absolue et primordiale, que nous verrons bientôt identifier à un ciel plus ou moins dépourvu de personnalité, est une force rationnelle, Li, qui représente la raison d'être du firmament, de la terre et de tous les êtres, et puis l'idée cosmogonique se développant déjà d'une façon remarquable dans l'esprit de la race jaune. À cette période très ancienne, le Taiki se trouve associé aux deux principes générateurs du dualisme chinois, du yin ou principe femelle et le yang ou principe mâle. La doctrine dualiste elle-même nous est présentée sous plusieurs formes qui prouvent les tâtonnements des premiers philosophes de la Chine pour arriver à rendre intelligible leur système relatif à la création. De la sorte, à la place du principe mâle et du principe femelle, nous voyons mentionner les liang yi ou deux yi, qui représentent les manifestations primordiales créatrices de la raison initiatrice, li, lorsque celle-ci devient active dans la nature ou en d'autres termes se matérialise. Ces deux manifestations créatrices primordiales sont contraires l'une à l'autre. Elles constituent, dans la pensée chinoise, deux conditions nécessaires à la production de la vie et du mouvement. Opposées de la sorte dans leur mode d'action, l'une représente le principe actif, l'autre le principe passif. Mais ces deux principes sont eux-mêmes inhérents au taiki, dont le principe mâle ou yang dérive par son état d'activité, et le principe femelle ou yin par son état de repos. Plus tard, le système se développe et le taiki devient multiple par son identification avec les sansai, ou trois principes révolutifs de l'univers, et par d'autres complications que je crois inutile de signaler pour résoudre le problème dont je m'occupe en ce moment. Je me bornerai à ajouter que lorsque les cosmogonistes chinois identifient le taiki au ciel, il n'accorde pas à celui-ci la puissance créatrice sans le concours des deux principes dualistes qui émanent de lui. Le ciel, disent-ils, seul ne peut produire ou créer, pas plus que le principe mâle ou le principe femelle isolément. Le concours des trois forces est nécessaire pour que la création devienne effective. Pour en revenir à la question que je me propose d'étudier ici, les Chinois, qui comprennent de la sorte leur Taiki, sont-ils, oui ou non, des athées? Ils ne le sont pas pour ceux qui se refusent à attacher à l'idée de Dieu celle d'une individualité plus ou moins conçue à l'image de l'être humain et qui aurait créé le monde par un acte de son bon plaisir. Mais ils le sont à coup sûr pour ceux qui admettent que Dieu est un personnage capable de prendre forme et même de parler, comme le Jéhovah de la Bible, ou d'entendre les récriminations des hommes comme les dieux d'une foule de cultes anciens et modernes. Tant qu'il demeure dans le domaine à peu près exclusif de la recherche philosophique, le Taiki semble exempt de toute matérialisation, de tout anthropomorphisme. Et comme je l'ai dit, je suis porté à croire que cette manière d'en comprendre le caractère est celle qui remonte le plus haut dans ce qui nous est possible de découvrir des origines philosophiques et religieuses de la race jaune. La matérialisation du Taiki commence alors que nous voyons ce grand principe primordial identifié avec le ciel. On ne peut pas dire cependant que les Chinois, par cette identification, en soient arrivés dès l'abord à l'idée soit anthropomorphique, soit même individualiste de Dieu. Le ciel, qu'il nous donne comme assimilé au Taiki, est quelque chose d'autre que le firmament. C'est une pure loi directrice qui, plus tard seulement, devient une personnalité. On nous explique bien les mots Taiki par une formule qui signifie « l'air du ciel » si l'on fait seulement acte de traducteur, sans être d'abord pénétré suffisamment du génie de la cosmogonie primitive de la Chine, mais qu'il faut expliquer par « émanation céleste », interprétation qui est d'ailleurs justifiée par cet autre qui veut dire « vertu céleste ». Et dans ce cas encore, il faut prendre les plus grandes précautions pour ne pas dévoyer. Par « vertu céleste », en effet, il ne faut pas comprendre les bons sentiments ou les actes généreux du ciel, mais la vertu dans le sens de « caractère spécial », comme lorsqu'on dit « la vertu d'un principe », « la vertu d'un médicament ». J'insiste sur la nécessité de tenir compte de pareilles nuances dont les sinologues se sont malheureusement trop peu préoccupés lorsqu'ils ont traduit des textes philosophiques, cosmogoniques ou religieux. Faut y avoir prêté attention, ils ont fait lire à des écrits dignes de tout notre respect, j'oserais peut-être ajouter de notre admiration, des paroles incohérentes et même des insanités dont les anciens Chinois ne sauraient être rendus responsables à aucun titre. J'ai acquis de la sorte la conviction qu'en recourant aux sources originales, il était possible de suivre en quelque sorte pas à pas les transformations de la philosophie à laquelle appartient cette haute expression de Taiki.